Nous sommes le lundi 30 octobre 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les chers et fidèles et bienveillants auditeurs et auditrices du Club La Presse. Vous nous écoutez sur les antennes de Radio Canal FM à Lomé, ses environs, mais également par le biais des médias partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon. Et puis ce n'est pas fini, dans le monde entier, cette émission parvient à vos oreilles par divers canaux, Radio Le Bénin, Ebene Radio, l'application Canal FM, et même ceux qui sont sur la chaîne YouTube, non seulement nous écoutent et nous regardent aussi. Nous saluons et remercions les techniciens qui réalisent l'émission et qui la mettent en onde pour vous. Ils sont deux, Victor Bekoku Michel Tominga et Gérard Kodjo Akucha. Je remercie également les confrères qui se font le devoir de nous accompagner tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, ils sont deux. Le troisième est en cours de route. Jacques Laya Djakouti, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. Merci pour l'intérêt que ces auditeurs auditrices portent à cette émission. Et je salue particulièrement tous ceux qui sont actuellement dans ces hôpitaux souffrants. Et je leur souhaite prompte guérison. Et ceux qui traversent des moments difficiles, nous savons que c'est pas facile, mais qu'ils sachent que Dieu est dans la barque avec eux.
Merci Jacques Djakouti. Cette intention nous amène à décliner déjà la pensée du jour. Le sage qui nous enseigne qu'une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Nous ressortons cette phrase en l'occasion du 30 octobre qui est décrétée Journée mondiale de la vie. À cette occasion, nous avons une pensée à l'endroit de toutes les femmes et de tous les hommes, grands ou petits, qui sont menacés par des guerres et des conflits de toutes sortes, un peu partout sur la terre, ou bien celles et ceux qui sont menacés par les catastrophes naturelles, ou encore ceux qui sont en face de différentes maladies, ou tout simplement qui ont faim, toutes les victimes des misères de toutes sortes. C'est à cela et à nous-mêmes que nous dédions cette émission. Je reviens autour de table avec Harry Niaou Tchanyaou, de Nouvelle Opinion. Bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous et à toutes.
Et le troisième, il est là avant que même je l'annonce. Didier Komiasogba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour aux aînés en studio et bien des choses à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et je n'oublie pas mon village natal, Kouvelboli.
Merci. Je rappelle encore une fois que nous sommes le 30 octobre, journée décrétée, journée mondiale de la vie. La vie même, par le souffle de vie, est un cadeau, est un don de quelqu'un. Chacun peut l'appeler comme il veut. Nous sommes en vie aujourd'hui. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous octroie cette vie et nous lui demandons de nous inspirer à faire de cette journée une journée du bien. Mais ceux qui ont des difficultés dans leur vie, telles que nous avons citées, les guerres, les conflits, la faim, la misère, les maladies, les catastrophes un peu partout. Nous pensons à toutes ces personnes. Pour dire que le thème, enfin le menu du Club de la Presse aujourd'hui, c'est des sujets qui inondent les journaux, les réseaux sociaux, même nos discussions. Nous allons revenir sur cette grâce que le président de la République a décrété le vendredi 27 octobre dernier, qui fait que un peu moins d'un millier de compatriotes retrouvent leur bercail. Nous leur souhaitons bon retour à la vie normale, mais nous allons également revisiter les portefeuilles de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement au Togo, portefeuilles qui se portent bien, et dans la foulée, le général Yark, ministre d'État en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise, qui parcourt le terrain pour visiter des chantiers sur lesquels il note quelques dysfonctionnements il brandit des cartons jaunes, pour ne pas dire, dit attention aux entreprises et aux cabinets. Et puis, ces nominations que le chef de l'État vient de décider au sein des forces armées togolaises, c'est encore de nos FAT qui changent de commandement ou bien de commandant. Voilà les sujets dont nous allons débattre et sur lesquels vous allez nous rejoindre sur le coup de 12h après la pause de la mi-journée. Les deux numéros, c'est le 22 21 33 74 ou bien le 91 36 63 75. Notre gratitude à ceux qui appellent fidèlement tous les jours, mais également notre attente que d'autres personnes entrent en ligne et que le débat soit plus riche, parce que plus varié. Didier Assogba, j'ai lu l'un de tes articles où tu, Togo Breaking News, a traité cette grâce présidentielle. Un décret pris par le chef de l'État le vendredi 27 octobre dernier. Alors, est-ce que effectivement, suite à ce décret, est-ce que les concernés ont déjà commencé à sortir de leur lieu de détention de prison?
Oui, selon les informations que nous avons eues, l'information donc du ministère de la Justice était donc quelque peu officielle déjà à partir de la soirée du 27 octobre dernier, le vendredi. Mm-hmm. Et dans la journée de samedi, il y a eu déjà quelques mouvements au niveau de beaucoup de prisons pour essayer de trier ceux qui sont concernés. Parce que vous savez, quand on prend des grâces comme ça, il y a des précisions. C'est que ceux qui sont, c'est des prévenus en fin de peine.
Pas seulement prévenus, mais prévenus, jugés, condamnés.
Condamnés, mm-hmm. qui sont donc vers la fin de leur peine qu'ils purgeaient. Et donc, il faut trier tout ça dans les centres de détention pour véritablement qu'on libère ceux qui sont véritablement concernés. Donc, depuis samedi, ce mouvement a eu lieu. Et donc, ma foi, jusqu'à ce matin, la plupart de ceux qui sont concernés doivent pouvoir regagner leur maison. Je n'ai pas eu le temps de vérifier la suite ce matin, mais je sais que déjà dans la journée de samedi, il y a eu beaucoup d'activités au niveau des prisons pour que les personnes concernées puissent sortir et regagner leur maison.
Merci. Arim Niaou Tchanyaou, le décret a été pris par le président de la République le 27 octobre dernier, sûrement sur proposition du ministre de la Justice. Et dans la foulée, le quotidien national Togo Presse, paru aujourd'hui, parle de désengorgement des prisons du Togo, une grâce présidentielle qui permet de libérer 956 détenus de droit commun. Autre journal qui en parle aussi, c'est Mega Info, qui écrit lui aussi que 956 prisonniers réintègrent la société normale. Eh bien, c'est des gens qui avaient été jugés et condamnés pour des délits, et nombre, sinon ils sont déjà pratiquement en fin d'exécution de leur peine. Ce sont ces 956 personnes ici de différentes prisons, de Lomé à Dapaon, en passant par Notien, Palimé, Bassa et autres, qui recouvrent progressivement leur liberté.
Oui, je crois que ce que le chef de l'État vient de faire, ça ressort effectivement de son pouvoir régalien, mais ça criait trop qu'il y a un surpeuplement dans nos prisons, mm-hmm. et que même de l'intérieur comme à l'extérieur, les institutions internationales qui regardent dedans se disent que ça ne va pas au Togo. Et je crois que l'action qui a été faite ce week-end et qui se poursuit sûrement cette semaine est en train d'aérer, de donner un peu de souffle à ceux qui sont à la prison, que ce soit à Lomé et un peu partout sur le territoire. Ce qui s'est fait, les gens attendraient que ça aille beaucoup plus, malgré les 900 et quelques, les 1000 qui sont...
956 pour être précis.
Pratiquement les 1000. Il y a encore ce surpeuplement au niveau de la prison, donc il faut aller vite et faire tout pour que le cachet particulier qu'on est en train de donner à notre justice, qu'on est en train de moderniser, que ce cachet-là ressemble à l'orthodoxie qui se vit un peu partout dans le monde, et que les gens, quand ils sont de l'autre côté, qu'ils ne sont pas opprimés, en dehors de la privation de liberté qu'on leur donne, qu'ils ne soient pas là à peiner et à avoir d'autres maladies qui finiront par les faire succomber ou les faire quitter ce monde.
Eh bien, Jacques Laya, je rappelle encore une fois, ce sont des prisonniers de droit commun qui bénéficient de cette mesure de grâce. ce sont des gens qui ont été jugés, condamnés et qui sont un peu déjà à la fin de leur peine. À côté de ça, donc ne bénéficient pas de cette grâce hein, les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, parce que le débat s'anime encore. Hein, certains estiment, un peu à tort ou à raison, qu'il y a encore des prisonniers politiques ou d'opinion. Eux ne sont pas concernés et ne sont pas non plus concernés ceux qui ont commis des crimes hein, vraiment graves. Ces deux catégories de prisonniers sont exclus de cette grâce, Jacques.
Non, ça, vous savez, c'est quand vous avez soif que vous reconnaissez la valeur de la calebasse. C'est-à-dire que la liberté n'a pas de prix. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en prison, il faut reconnaître que vous n'êtes pas libre. Et si vous êtes dehors, c'est là que vous comprenez que la liberté, effectivement, est un prix d'or. Donc, je crois que ceux qui ont recouvert leur liberté... J'ai suivi un peu certains ce matin, et avec le directeur également de la prison, qui donnait des conseils, qui disait à ceux qu'on a libérés de ne plus revenir. Parce que ce qu'ils constatent, c'est qu'on les libère une semaine après, on les ramène encore. Et certains même sont contents. Et quand ils sortent, ils reviennent encore. Je crois qu'il faudrait également un système, soit posé, ne serait-ce que peut-être développer des projets agricoles pour aider pour la réinsertion, par exemple, de ceux qu'on libère et qui reviennent encore. Parce qu'il faut se dire que quelqu'un qui a passé, par exemple, 10 mois en prison, qu'on libère, une semaine après, cette personne revient encore en prison, dites-vous que la personne, la prison ne l'a pas servi à grand-chose. Donc il faudrait peut-être orienter cette personne-là à aller faire autre chose pour pouvoir effectivement se retrouver dans la société. Parce que je ne peux pas comprendre, peut-être que quelqu'un a volé. On t'arrête, on t'envoie en prison, on te libère, et deux jours encore, tu voles, on te ramène encore. Ce qui veut dire que la prison n'a pas corrigé. Donc il faudrait que le gouvernement puisse développer encore des systèmes, chercher des projets, amener par exemple ce genre de personnes qu'on libère et qui reviennent, peut-être les amener dans les champs pour cultiver, pour que cette nourriture-là, le maïs, les ignames qu'on récolte au niveau de ces champs-là, et puisse nourrir également ceux qui sont en prison. Je crois qu'à partir de là, les gens seront conscients et quand on les libère, ils ne vont plus encore voler ou revenir. Vous avez parlé également effectivement de ces prisonniers politiques. Je crois que ça fait débat ici au Togo parce que certains disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, d'autres disent qu'il y en a. Donc je crois que, comme le ministre de la Justice l'a si bien fait, en introduisant par exemple cette demande au chef de l'État pour libérer ces prisonniers d'opinion, il faudrait aujourd'hui...
Ces prisonniers de droit commun.
Droit commun, autant pour moi. Il faudrait maintenant que le ministre puisse pousser le bouchon un peu loin pour se dire, quelle qu'en soit effectivement la situation, ce que les gens ont commis, lorsque les gens, par exemple, purgé leur peine, il faut quand même les libérer. Il faut les libérer. Il ne faut pas les laisser toujours en prison parce que cela ne sert à rien. Parce que vous voyez, chaque fois, quand on cite le Togo, on dit, non, il y a des prisonniers politiques. Au même moment, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité dans cette affaire, il faudrait que lorsqu'on les juge, et lorsque, par exemple, il y a une peine et qu'ils sont arrivés, effectivement, à purger la peine, il faudrait qu'on puisse quand même les élargir, qu'ils puissent se retrouver, tout simplement, à leur liberté également.
Merci, Didier Assoba. Nous parlons du désengagement de la prison, effectivement. Quand vous suivez M. Akibou, le régisseur de la prison de Lomé, c'est un ouf. Hein, parce que c'est au total 344 personnes hein, qui sont concernées par cette mesure. Ça va être un ouf pour la prison civile de Lomé un peu partout. Et ceux qui recourent à la liberté eux-mêmes sont contents, leur famille également. Mais si on parle de désengorgement de la prison, c'est qu'il y a encore des gens hein, qui sont là-bas depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, qui ne sont même pas encore jugés et qui ne connaissent pas leur, disons, leur sort, à ceux-là aussi, il va falloir demander que le chef de l'État instruise formellement le ministère de la Justice pour qu'on accélère la procédure, qu'on juge les gens. Ceux qui auront été condamnés vont continuer à purger leur peine, mais ceux qui auront été reconnus innocents, qu'ils retrouvent également leur liberté.
Je commence par là où Jacques a chuté tout à l'heure pour arriver à la question que tu me poses. C'est que même les gens dont le statut est disputé entre le gouvernement, les organisations de la société civile, les partis politiques et en quelque sorte les organisations internationales, la plupart d'entre eux ne sont pas jugés, c'est-à-dire ceux qui sont pris pour avoir exprimé leurs opinions ou avoir participé à des activités des partis politiques qui ont été arrêtés pour la plupart, ne sont toujours pas jugés. Certains ont fait plusieurs années là-bas, certains ont fait plusieurs mois, mais ils n'ont jamais été jugés. Donc, jusque-là, la plupart d'entre eux ne savent pas à quelle sauce, finalement, ils seront mangés. Et ajouté à cela, on a, si j'ai encore les bons chiffres, on a à la prison, ou dans la plupart de nos prisons, jusqu'à 7 détenus sur 10 qui n'ont jamais été jugés. Jusqu'à 7 détenus sur 10, c'est-à-dire le pourcentage passe jusqu'à 65%, donc il n'y a pas de demi-hommes. On estime que jusqu'à 7 personnes, 7 prisonniers sur 10 n'ont pas encore été jugés, mais ils sont quand même envoyés à la prison en attendant de purger les peines et espérant qu'un beau jour, un juge pourra s'occuper de leur sort et les juger. Donc à partir de ce moment-là, la politique même de désengorgement prend un sérieux coup et ne pourra pas être une politique assez efficace quand la plupart des détenus ne sont pas jugés. Le désengorgement dont on parle va prendre des difficultés pour s'exécuter. Donc à partir de ce moment-là, quand vous prenez la prison civile de Lomé, une prison construite pour quelques 650-660 détenus qui se retrouvent aujourd'hui en avoir jusqu'à des fois 4 000, 4 500, 5 000, donc le désengorgement, bon, sur 4 000 et quelques, on en prend 300. Bon, vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu comme une goutte d'eau dans la mer. Et donc, véritablement, la question qui se pose aujourd'hui dans la politique même de désengorgement des prisons, c'est de voir comment on organise, même si on peut organiser les audiences foraines pour permettre de juger les détenus qui ont passé plusieurs années dans la prison sans être jugés, afin de pouvoir les libérer, je pense que ce sera un bon service rendu à la nation. Donc, si des services du chef de l'État les écoutent, je pense que le ministre de la Justice pourra lui-même, il est assez efficace sur certains sujets dernièrement, donc il pourrait également avancer dans ce sens. J'ajoute également l'autre politique, c'est, vous avez dit tout à l'heure que la plupart des personnes, des prisonniers libérés reviennent 2 semaines après, 1 mois après ou 3 mois après. Enfin, de toute façon, la plupart reviennent. Ça pose également une autre question liée directement à la justice, c'est la question de la réinsertion. Quelle est la politique qu'on a aujourd'hui pour la réinsertion des gens qui ont passé plusieurs années ou plusieurs mois dans les maisons d'arrêt du pays, et quelle est la politique de réinsertion aujourd'hui qu'on leur offre? Il n'y a pratiquement pas une politique assez palpable, assez visible, ou qui donne véritablement de fruits. Sinon, les gens ne vont pas sortir et revenir 2 semaines après. Il y a quelques initiatives ici et là, mais ce n'est pas assez coordonné. Donc, il faut également regarder par là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène dans la nation, c'est le phénomène des arnaques par les téléphonies et tout ça. Et il vous revient que la plupart de ceux qui sont champions dans cette histoire d'arnaque et par téléphone se retrouvent dans les prisons, soit la prison de Kara, soit la prison de Lomé, soit dans certaines prisons. Donc les gens sont déjà là, ils savent que bon, leur sort c'est la prison et ils opèrent depuis la prison. Donc qu'est-ce que vous pouvez leur faire? Il n'y a plus un autre endroit pire que la prison, donc ils sont là et ils continuent
à faire d'autres problèmes. Donc, si on a jugé les gens, les a condamnés, ils sont en prison et que depuis la prison ils continuent à commettre les mêmes dégâts, les mêmes forfaits, quelle est la part de responsabilité, pour ne pas dire de complicité, de la prison? Parce que je présume qu'il n'est pas admis qu'un détenu ait sur lui un téléphone. Alors comment est-ce que les téléphones atterrissent dans les prisons, que les gens opèrent en toute impunité? That is another question. Mais revenons à la question de la réintégration. Hier, j'étais avec des gens, notamment les commerçantes, les vendeuses, qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette grâce présidentielle, parce que pour cela, c'est encore des petits voleurs que le chef de l'État vient de déverser sur les marchés, surtout en cette fête, en cette période de fin d'année. Ils craignent que les marchés seront encore envahis par les pickpockets et les petits voleurs. Et Harry Miao, donc la question de la réintégration. Quand le confrère Mega Info dit que 956 prisonniers réintègrent la vie normale, c'est ça, la vie normale. La prison, c'est pour punir pour ce que les gens ont fait de mauvais, mais en principe, la prison devrait aider les gens à une resociabilisation pour que les gens reviennent dans la société, se réintègrent. Mais est-ce que nos prisons vraiment permettent aux détenus de pouvoir se réintégrer après leur libération?
Non, je crois que Diakouti a flairé un peu la question en disant que il y a des gens, quand ils sortent de la prison, c'est comme ils ont envie de faire un retour. Et donc, c'est des options pour ces prisonniers-là. Il y a des prisonniers qui ont pris pour option d'opérer. Et donc, quand ils ne le font pas, ils ne sont pas à l'aise. Quand on les ramène, il y a des gens qui ont tiré déjà la leçon. Puisque Diakouti a dit que à un ennemi, même, il ne faut pas souhaiter la prison. Quand on prive quelqu'un de sa liberté, même dans nos maisons, il suffit qu'on te dise que bon, toi, tu es condamné à vivre dans l'enclos de ta maison, tu ne vas plus sortir pendant même un mois, deux mois. C'est une prison déjà. Vous allez voir comment nous en souffrons. Si nous en souffrirons, si à nous, on nous demande de ne plus sortir de nos maisons. Maintenant, il y a certains, hors de la prison, ils se sentent plus à l'aise. C'est comme des
non, plutôt dans les buts de la prison.
Non, c'est dedans qu'ils sont à l'aise. Okay. Quand on les met dehors, c'est comme on a sorti un requin de l'eau. Et donc, il va chercher toutes les possibilités qu'il peut avoir pour retourner là-bas. Et ce sont ces gens-là qui sont très experts de ce que Didier Assoba dit, qui depuis la prison opère. Mais il y a des gens, on ne peut pas dire que les 900 et quelques prisons qui sont des prisonniers libérés voudraient retourner. Non. Il y en a qui sont conscients et qui donnent des conseils, qui donnent des orientations. Mais la question de la réintégration, elle est très importante parce que on ne peut pas tout le temps prendre des gens pour des faits qui ne sont pas orthodoxes, qui ne sont pas bien dans la société et qu'on ne les réutilise pas. Pour beaucoup, c'est des questions d'employabilité, on peut les employer quelque part, on peut les redéployer quelque part, ils vont être vraiment positifs, ils vont faire des rendements, ils vont faire des entrées pour l'État. Mais rien, effectivement, n'a été prévu dans ce sens au Togo. Je sais que dans l'histoire, il y avait à Bumbuyo, il y avait à Bassa, où quand on prenait des gens qui sont des récidivistes dans le vol, on les ramenait là-bas pour cultiver, pour élever les bétails et les bêtes, et ça faisait quand même quelque chose de très bon. Mais à la conférence, on avait vu qu'il y avait une exagération à ce niveau, et maintenant, il faut retrouver un nouveau modèle qui s'adapte au temps contemporain et au temps moderne, pour qu'une fois qu'on sort les gens comme ça, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire avec eux. Ne serait-ce que les volontaires, parce qu'il y a des gens sortis de là qui accepteraient, par exemple, aller travailler dans une ferme, qui accepteraient aller apprendre un métier, qui accepteraient aller faire ci ou ça. Donc, il faut que l'État mette une politique dans ce sens qui permette que les gens, d'eux-mêmes, puissent avancer dans
leur domaine. Merci. Les réflexions devraient continuer parce que Jacques Diakouti, les prisonniers, ils coûtent cher à tout le monde.
Je voudrais ajouter
cher à l'État parce on accuse souvent l'État qui ne s'occupe pas assez bien des prisonniers pour ce qui est de leur nourriture, de leur santé et autres. Mais ils coûtent cher également à la famille. Parce que je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois d'avoir un membre de votre famille en prison. Vous devez aller lui rendre visite assez régulièrement,
lui amener à manger,
et si jamais il ou elle tombe malade, c'est à votre charge. Donc trouvez une solution pour que, pendant que les gens purgent leur peine, quand même que ça ne pèse pas trop, ni sur eux-mêmes, ni sur l'État, ni sur la société.
Je voulais juste dire qu'il doit avoir également au niveau de la justice, le ministre de la Justice devrait voir, et adopter une nouvelle politique. On a relevé ici tout à l'heure qu'il y a des gens qui font 3 mois, 6 mois, même voire 1 an,
oui,
sans qu'on discute, sans qu'on touche leur dossier. C'est et qui encombrent les prisons.
Oui.
Il faut que la justice essaye de se censurer en disant que personne ne peut être déposé dans une prison du Togo et faire 3 mois sans qu'on discute de son affaire, sans qu'on ouvre la procédure. Il faut le faire, et si on le fait, je crois que ça va permettre d'aller plus vite et de désengorger, effectivement.
À ce niveau, je rappelle que l'un des volets de la modernisation de la justice, c'est également la célérité de la procédure, mais ce côté-là reste encore un parent pauvre. Mais Jacques Diakouti, je parlais tantôt de la réflexion qu'on devrait continuer à mener pour que pendant que les gens purgent leur peine en prison, que leur prise en charge ne pèse pas trop ni sur eux-mêmes, ni sur l'État, ni surtout sur les familles.
Vous savez, ça, ce n'est pas du tout facile. Comme vous l'avez si bien dit, si vous avez un frère ou un ami qui est en prison, c'est là que vous saurez effectivement ce que c'est que la vie. Et l'autre aspect, vous savez, lorsque votre ami, votre frère sort de la prison, je vous dis, il faut avoir vraiment 100% de chance pour récupérer votre ami ou votre frère. D'abord, la personne, elle est dépérie. Deux, la personne, souvent, elle perd presque l'essence. Vraiment, c'est pas facile pour que la personne puisse vraiment se retrouver. Vous allez voir certains, quand ils sortent comme ça, ils ne font pas assez longtemps, et puis vous allez entendre qu'ils sont morts. Parce que la vie, vraiment, en prison, ce n'est pas vraiment une vie. Il ne faut pas vraiment souhaiter une vie, arrêter quelqu'un pour le laisser là-bas. Pendant des années, on ne juge pas la personne. Et puis bon, quand le moment vient, on reporte. Et finalement, le moment de juger, par exemple, la personne, on la juge. Et quelques temps seulement, on apprend que la personne est décédée. Donc je crois qu'il faudrait que vraiment le ministre de la Justice et les avocats qui sont chargés de ce genre de dossier-là puissent voir comment instruire ces dossiers pour qu'on puisse juger effectivement ces personnes. Et on sait, si on te juge, on te donne 5 ans, bon, tu sais que tu as 5 ans à faire. Dans ta mentalité, dans ta pensée, tu sais que, bon, tu es là, tu vas purger 5 ans avant de sortir. Mais tu es là, certains ont déjà fait 2 ans, certains ont fait 3 ans, et le dossier n'est même pas instruit. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va juger ce genre de personnes. Je donne le cas, par exemple, de ce qu'on a arrêté dans les histoires de trading et autres. Jusqu'à présent, les gens sont là-bas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les juger. Mais je crois qu'à un moment donné, quand même, il faut le faire. Même s'ils ont fauté, il faut quand même les juger. Il faut les juger. On ne peut pas les laisser là-bas éternellement comme ça. Hein? On ne les juge pas, on les laisse là-bas. Ceux qui sont dehors aussi ne savent pas à quel sens se vouer par rapport à leur argent. Et finalement, c'est de la salade. On ne sait pas comment faire. Donc je crois que à un moment donné, il faudrait que le ministre de la Justice fasse quelque chose et qu'on juge les gens. Et bon, s'il y a une peine, qu'on va les coller, qu'on leur colle la peine, et après la peine, on les libère.
Merci. Ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de trading, comme Jacques le dit, mais également ceux qui ont été arrêtés dans la funeste affaire de Tiger Revolution, yeah. Ils sont également là. On ne sait pas quand ils seront jugés. Ceux qui sont également là pour question d'opinion, dont Jean-Paul Oumoulou, ça fait déjà quelques mois, sinon quelques années, et il est là, on ne dit rien. Et puis quant à ceux qui ont volé une poule ici, peut-être à Kwewa, ou bien qui ont volé une chèvre à Kouveboui, ou bien une vache dans le village de Jacques Diakouti, plein de terrains ici, là, qui sont en prison depuis des années, qu'on ne dit rien, ce n'est pas bien. Et puis quand on dit prison, la prison peut accueillir tout le monde, hein. L'actualité, on a connu, bien sûr, on a connu des gens qui sont sortis de la prison pour devenir chef d'État, le cas emblématique de Nelson Mandela, mais on a également connu des hommes d'État qui sont en prison. Ouais. En Mauritanie, par exemple, l'ancien général qui a fait 2 mandats, il vient d'être jugé, il est en prison. Au Gabon, des épouses de chefs d'État, des fils de chefs d'État, des directeurs de cabinet de chefs d'État sont en prison. Chez nous ici, on a connu même des gens qui n'étaient pas minces, mais qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Et il y a un procès qui a été ouvert depuis la semaine passée et qui s'ouvre, le tribunal militaire. Peut-être que l'issue de ce procès pourrait également envoyer certaines personnes en prison. Ces personnes-là dont nous savons comment ils ont été importants à des moments. Alors Didier, ce procès continue à se tenir. Je ne sais pas si quel jour la séance va reprendre aujourd'hui, mais c'est un procès qui se déroule. Donc une grande première dans notre pays que des officiers supérieurs, des officiers généraux, des généraux qui ont commandé des garnisons, qui ont été même chefs d'état-major de notre armée, c'est eux qui sont sur les bancs des accusés aujourd'hui. Quant à nous, nous pouvons souhaiter que la justice soit vraiment équitable et que la vérité grand V éclate dans cette affaire.
J'y arrive, mais il faut parler des prisons. C'est d'où la question d'humaniser les prisons. on ne sait jamais qui peut se retrouver un jour à prison. Ben moi, de ma mémoire de jeune Togolais d'abord, et en plus de journaliste, si on me disait qu'un jour, on verrait un Yassingbé de la trempe de Kpatcha être en train de purger une longue peine de prison actuellement, je ne vais jamais y croire. Mais la réalité est là, depuis 2009, Kpatcha Yassingbé est en prison, et notamment la prison emblématique du Togo, prison civile de Lomé, qu'on appelle Azitimé, généralement dans le pays. Il est dans la Azitimé depuis longtemps. Donc, d'autres personnes également peuvent un jour se retrouver là-bas. Donc, d'où la question d'humaniser les prisons. Quand nous parlons de désengorgement, de la question des prévenus, et vous avez tu as parlé de la gestion même des peines. On a beaucoup parlé des peines alternatives ici. Arim Yayo a dit que la justice devrait se faire violence de ne pas envoyer des gens tant que les gens ne sont pas condamnés. Je pense que si nous voulons véritablement humaniser nos centres de détention au Togo, on pourrait y arriver. On va y arriver. C'est vrai qu'il y a une politique de construction d'une nouvelle prison quelque part là-bas vers Dalavé. Mais je pense véritablement qu'il faut commencer déjà par humaniser ce qu'on a. Et on ne sait jamais.
Nous sommes tous des candidats potentiels d'aller en prison.
Justement. Surtout, tu viens de nous donner des exemples des gens qui ont été assez importants en un moment donné dans la vie du Togo, surtout des gens qui ont eu à gérer les affaires publiques, les affaires d'État, et qui se retrouvent aujourd'hui devant une juridiction militaire. On leur reproche beaucoup de choses, et Dieu seul sait s'ils pourront arriver à être acquittés. Mais moi, ma foi, les peines ou les chefs d'accusation sont tellement graves que je ne vois pas par quelle issue on pourra acquitter des gens. Donc, si ça se trouve, des gens seront condamnés, mais ils iront dans quelle prison ? Pour le moment, on n'a pas de prison militaire quelque part, donc on n'a que des prisons civiles. Donc ça veut dire que quand on va finir par condamner des gens à l'issue de ce procès, ces gens-là se retrouveront soit à la prison civile de Lomé, soit à la prison civile de Tshévié. Ça va s'empirer jusqu'au nord du pays. Donc, travaillons et essayons d'humaniser le pays, d'humaniser le Togo, que même si des gens sont en prison, ils ont été condamnés pour privation de liberté, mais pas pour privation d'autre chose, quoi.
Merci. Donc, quand la séance va s'ouvrir aujourd'hui ou demain, avec les briefs d'informations qui filtreront jusqu'à nos oreilles, nous vous en parlerons. Alors, ce tribunal militaire siège pour connaître des suites, des circonstances de la mort brutale de feu le colonel Bitala Toussaint Madjoulba, qui était commandant du premier BI, lequel premier BI vient d'avoir un nouveau commandant en chef en la personne du lieutenant-colonel Ngoaki Kadanga. Arim Yayo, cette nomination fait suite d'une série de nominations que le chef de l'État vient d'effectuer au sein des forces armées togolaises. Il y a la deuxième région militaire du Togo qui est prise en compte. Il y a même le régiment commando de la garde présidentielle et d'autres corps, dont l'opération Kounjouaré, qui viennent d'avoir de nouveaux commandants.
Je crois que le chef de l'État, il est pragmatique. Il est en train de prendre des dispositions pour nous assurer encore, pour nous donner encore de la sécurité. C'est lui, le chef suprême des armées. Et c'est lui qui sait quand et comment et où il faut placer telle ou telle personne. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et nous autres, on ne peut que souhaiter bon vent à tous ceux qui ont été nommés récemment, mais c'est pour notre bien, c'est pour faire en sorte que le Togo se porte davantage mieux, et je crois que c'est une série qui se fait un peu dans la sous-région, si ce n'est pas pour changer les chefs corps, c'est pour faire les remaniements ministériels, comme ce que nous avons vu la dernière fois en Côte d'Ivoire, même chez nous ici, on l'avait vu. Donc c'est des réglages que les chefs d'État, qui sont les premiers responsables, garants de la sécurité de leur pays, sont en train de faire, et c'est ce qui s'est fait ici. Et donc, que les choses se passent très bien avec ce qu'on a mis, et pour le bonheur de tous les Togolais que nous sommes, on observe et on souhaite bon vent et bonne chance à tous ces chefs qu'on a nommés récemment.
Jacques Jacouti, les commentaires vont bon train, d'aucun lit ces nominations au procès qui accourt actuellement et dont nous venons de parler. Mais on peut dire que depuis de nombreuses années, Fort Yassingbé nous habitue à ces mouvements assez dynamique au sein de l'armée togolaise, de l'état-major général des FAT aux garnisons. Il nous a habitués à intervalles assez réguliers à la nomination de nouveaux commandants. C'est ce qu'il vient de faire avec le RCGP, le régiment commando de la garde présidentielle. Il y a le premier BIR dont nous venons de parler. Il y a également l'inspection générale des forces armées togolaises qui vient d'avoir un nouveau commandant. L'opération Kundjuare même. Et puis le deuxième BIR, le troisième régiment d'infanterie, le RSA, le régiment de soutien et d'appui, ainsi que la deuxième région militaire et d'autres corps. Donc c'est assez régulièrement, Fon Yasingbe renouvelle les instances de ces garnisons, de ces corps.
Bon, vous savez, ça, personnellement, ces nominations, il faut reconnaître que depuis un certain temps, vous savez, avec ce procès, on a entendu beaucoup de choses au niveau effectivement du palais de la justice sur les bisbilles entre les co-accusés. Je crois que c'est une bonne chose, mais personnellement, moi, je voudrais inviter une fois encore le chef de l'État à plus encore secouer le cocotier.
Là, le cocotier militaire ou bien lequel? Il y a beaucoup de cocotiers.
Oui, c'est-à-dire que pas côté militaire seulement. Mm-hmm. Il y a beaucoup de cocotiers que le chef de l'État doit secouer. Mm-hmm. Vous prenez par exemple les institutions de la République. Il y a également des problèmes à ce niveau. Il faudrait que le chef de l'État secoue également ce cocotier à ce niveau. Vous voyez, depuis un certain temps,
il y a des cocotiers des institutions de la République.
Bien sûr.
Dont beaucoup sont hors de l'air.
Il faudrait que ça se fasse.
Et le même phénomène qui menace l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si nous allons tenir les élections législatives avant le 31 décembre 2023. Sinon, les députés aussi auront consommé leur mandat. Bien sûr, il y a cette clause constitutionnelle qui les maintiendra en fonction jusqu'au renouvellement. Mais ça fait un problème pour le fonctionnement normal de la République, de ces institutions.
Oui, vous savez, ça, quand ça dort comme ça, il faut se dire la vérité. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Vous savez, ce procès auquel nous sommes en train d'assister, vous voyez ce qui se dit là-bas. Je ne suis pas dans la salle, mais les bribes d'informations que nous recevons de gauche à droite prouvent que c'est comme s'il y avait une animosité entre certains officiers
de très haut niveau
qui sont censés effectivement être garants de la sécurité du pays, et que ces officiers, ceux-là, se retrouvent en train de s'accuser de gauche à droite et laisser de côté ce pour quoi on les a appelés. Oui. Vous voyez que ça fait quand même un peu mal.
Alors on découvre tout ce soupçonné qu'ils se tendaient des pots de banane pour ne pas y chercher à se piéger l'un l'autre.
Ouais. Mais ça fait vraiment mal. Ça fait mal ce que nous sommes en train d'entendre au niveau de ce procès. Et à un moment donné, excusez-moi, peut-être que je peux exagérer dans ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a des mains mortes avec son armée. Oui, excusez-moi, peut-être que je peux me tromper. Parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire que les officiers qui sont appelés à gérer effectivement la sécurité du pays soient dans ces choses-là. On peut dire que ça, c'est un jeu d'enfant. Qu'on dise que bon, c'est parce que l'autre m'a accusé que j'ai fait ceci, c'est pourquoi moi aussi j'ai fait ça. Et à côté, on laisse la sécurité. Je crois qu'il faudrait une fois encore. Le président Faure est en train de secouer le cocotier, mais il faudrait qu'il secoue encore plus le cocotier. Il y a des domaines dans lesquels il doit encore secouer. Il faut qu'il secoue pour que les choses puissent avancer. Parce que quand vous prenez par exemple SAS, la Cour constitutionnelle, il y a un problème. Depuis là, le président est décédé, on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Vous prenez par exemple la Cour des comptes, il y a également un problème là-bas. Vous prenez la CNDH, on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Il y a également la HAC également qui est là-bas. Donc il y a beaucoup de choses. Monsieur le Président, vous avez bien fait de secouer au sein de l'armée. Il y a des institutions également qu'il faut secouer pour que ça puisse avancer. Parce qu'il faut reconnaître, vous savez, quand l'homme est là, c'est vrai que ceux qui sont là, ils peuvent faire le travail. Mais quand vous êtes hors mandat SAS, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. il y a des décisions qu'on ne pourrait plus peut-être prendre, de peur que peut-être, en s'engageant, demain, on puisse dire, bon, mon ami, tu peux dégager. Donc je crois que aujourd'hui, ceux qui sont là dans ces institutions, je vous dis, les gens ne dorment pas les deux yeux fermés, hein. Ils ont toujours un œil ouvert. Et je vous dis, ils n'ont pas un sommeil tranquille. Parce qu'ils se disent à tout moment, on peut dire que c'est fini. Donc il faut mettre les gens à l'aise, monsieur le Président. Il faut les mettre à l'aise. Si vous voulez qu'ils continuent, prenez notre décret, vous les nommez. Mais si vous ne voulez pas qu'ils continuent, prenez un décret et il faut les changer. Et je crois que ça, c'est la vitalité de nos institutions. Et c'est la vitalité du pays et c'est la vitalité également de la démocratie.
Merci Arignan. Ce que Jacques dit là, c'est assez important parce que toutes ces institutions dont les membres ont exécuté, ont terminé leur mandat depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, mais qui sont toujours là, ça pose un problème. Certains se retrouvent fragilisés devant leur propre conscience et devant leurs partenaires étrangers. Hein, comment est-ce qu'un président d'une institution qui est hors délai peut, en toute élégance et galanterie, aller négocier un accord à l'international? Et surtout que cela pose un problème de la validité des actes que certaines institutions posent. C'est pas si un citoyen ne va pas se lever un jour pour attaquer devant la chambre administrative de la Cour suprême un acte qu'un président d'institution hors délai aurait peut-être posé.
Oui, mais je crois que ce n'est pas la première fois que ces débats se tiennent, que ce soit à vos micros ici, que ce soit à la télé, que ce soit par écrit. Mais ça me donne l'impression que chez nous, au Togo, quand les journalistes dénoncent une situation, ça permet aux gens de muscler leur position, de dire « bon, nous n'allons pas faire ce qu'ils disent parce que ce n'est pas eux qui nous orientent ». C'est ce que moi j'ai constaté. Il y a des moments où nous disons des choses qui sont évidentes, des choses qui participent à asseoir la démocratie, les choses qui participent à construire la nation. Tel que Djakouti l'a posé, il a dit que le président de la République a vu clair en réglant rapidement ce qu'il peut régler au niveau de la sécurité, au niveau de l'armée, et qu'il faut faire ça. D'autre part, parce qu'il y a des manquements qui n'arrangent pas le pays. Mais d'ailleurs, il peut y avoir des conseillers ou d'autres personnes qui diront « bon, qu'est-ce que les journalistes ont à s'inviter ?»
Nous faisons que notre travail est d'apporter la lumière.
Comment vous comprenez les pans de la nation ? Comment vous comprenez que, laissez le dossier que Djakouti a abordé, il y a d'autres aspects que nous abordons. Mais rien ne se fait. Ça veut dire que, quand c'est nous qui le disons, des gens se disent « bon, ils sont qui ?» Il y en a d'ailleurs qui le font. Nous connaissons comment les gens réagissent. Vous avez des citoyens, ils voient un journaliste et disent « je vous aime pas, vous ». Vous ne me plaisez pas. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Donc, peut-être qu'il y a un agenda pour tout. Et moi, j'ai dit qu'il y a un temps pour tout chose, sûrement que, de façon graduelle, comme Djakouti l'a dit, on serait en train de penser à voir ce qu'il faut faire pour que des gens soient nommés à la tête de ces institutions et que, par endroit, ce qui reste à régler, et qu'on puisse également le régler pour la bonne marche de la loi.
Garignan, je te rassure, c'est vrai qu'il y a certaines de ces personnalités qui nous snobent et qui nous disent comme ça vis-à-vis, qui ne nous aiment pas, nous les journalistes. Mais rassure-toi, Garignan, il y en a encore plein d'autres et très bien placés qui nous aiment aussi et qui considèrent le travail que nous faisons au quotidien. Didier Assogba.
Oui, moi je pense fondamentalement que Garignan disait tout à l'heure qu'il y a un agenda, il y a un temps pour tout, mais moi je pense que quand on est dans une république, les agendas sont réglés par les tests. Les agendas, les temps, les moments sont fixés par les tests et non par l'humeur de certaines personnes. Ou non par le vouloir et la volonté de certaines personnes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Si nous en parlons ici, c'est parce que l'agenda républicain prévoit qu'après chaque 5 ans, qu'on puisse renouveler la représentation
nationale. D'autant plus que nous n'avons pas de situation de crise.
Naturellement. Et l'agenda républicain prévoit dans les tests organiques, dans la Constitution et d'autres tests, que la HAC fait 5 ans et qu'on renouvelle. La CNDH fait 5 ans, on le renouvelle. La Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, qu'on renouvelle les institutions. Je pense que l'agenda républicain est là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le respecte pas? Donc là, ça repose un problème démocratique. Nous sommes dans un pays que nous disons en processus de démocratisation, moi je ne dirais pas démocratique, Nous sommes dans un état de droit parce que les tests sont là. Pour faire un état de droit, il faut des tests. Donc, on a les tests qui sont là, qui font du Togo aujourd'hui un état de droit démocratique. On pourra continuer à discuter. Mais pourquoi on ne respecte justement pas les dispositions légales pour permettre au pays de ne pas être dans les crises où il soit au niveau des institutions, comme tu l'as dit. Et c'est même un risque que l'État prend en laissant la plupart de ces institutions-là, sinon la majorité des institutions aujourd'hui hors délai, et qui continuent, dont les membres continuent de poser un certain nombre de pas, y compris en prenant pour certaines des sanctions, même contre des citoyens, des décisions qui pourraient être un jour être attaquées, même si subtilement on met des dispositions pour dire que certains membres peuvent rester jusqu'à la prise de fonction d'autres. C'est parce que ça reste juste des dispositions transitoires. Et comme vous avez dit tout à l'heure, quand on est dans des transitions, des gens se réservent de se donner au risque d'être un jour, parce que même ils ont la conscience qu'un jour, s'ils vont trop loin, ils poussent le bouchon trop loin, ils peuvent être un jour être attaqués.
Bien sûr.
Donc je pense que tout ce qui est urgence au niveau même de l'administration militaire, où le chef de l'État décide de renouveler le commandement à période régulière pour éviter un certain nombre de situations, je pense que ça également, c'est également valable pour la vie de tous les jours de la République, où les institutions sont généralement plus engagées à prendre un certain nombre de décisions. Et donc je pense que le chef de l'État, ce n'est pas un débat de journalistes, c'est un débat républicain, c'est un débat légal que nous posons ici. Donc, il faut véritablement que ces conseillers ou d'autres personnes qui nous écoutent
renouvellent la vie. Juste rappeler encore une fois que la vitalité de la vie démocratique d'un pays dépend de la solidité des institutions et de l'honorabilité.
Et le forum de l'OMI sur la sécurité et la paix en a parlé dernièrement et longuement durant la semaine dernière, que si nous voulons éviter des situations de transition, il faut véritablement que les institutions de nos républiques soient des institutions...
Merci. Arim, il y a une précision ?
Mais c'est ce que je disais tantôt. Je dis que ça donne l'impression que c'est à volonté ou bien c'est sciemment que les gens posent ces actes-là. Qui d'autre connaît les tests au Togo que l'Assemblée nationale ? Vous avez relevé la question de l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent les tests, c'est eux qui appliquent tout. Mais qui d'autre, tout ce qu'on vient de dire là, qui d'autre maîtrise ça mieux que nos députés? Mais voilà que les députés sont à petit coup en train d'aller pour clos. Et c'est eux qui devraient en réalité, en bon modèle, dire non, on ne peut pas accepter ça. Les institutions dont vous parlez, tous ces jours là-bas, maintenant, eux-mêmes, ils sont en train d'aller...
Et justement, dans ta logique, qui s'assure même de la constitutionnalité de nos lois?
C'est la
Cour constitutionnelle. Ils sont censés être, je crois, neufs. Ils sont sept depuis, et puis ils viennent de perdre leur président. Je crois qu'un texte dit que le président de la Cour constitutionnelle doit être remplacé au plus tard un mois après son décès. Monsieur Assouma est parti il y a déjà quelques mois, et nous sommes là... Personne ne nous dit rien. Alors, s'il y a une situation qui se posait et qui interpelle la Cour constitutionnelle, qui va la
convoquer? C'est pour cela que je dis, dans quel cas? C'est sciemment que tout se fait parce que les gens dont vous parlez, tout le monde connaît mieux les tests que nous. Et c'est par rapport à ça qu'on dira, qu'est-ce que vous voulez donner comme leçon aux journalistes qui est rassemblé.
Nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit.
C'est ce
nous
faisons dit.
Que
c'est
notre travail est d'informer et d'attirer l'attention sur ceci et celui-là. C'est ainsi que nous intéressons à notre cher Yark Damehab, le général tombé dans l'eau, mais qui se débat sur tous les terrains. Il y a quelques jours, il était dans une localité de la préfecture de la Kéran pour procéder au lancement du volet 3. Du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans le nord du Togo. Et dans la foulée, il est monté encore plus haut dans le nord pour visiter certains chantiers. Didier Assogba, j'ai lu cet article de Togo Breaking News. Quand Yark est allé visiter les travaux de renouvellement et d'extension des réseaux d'eau potable des villes du périmètre d'affermage de la TDE à Mango, à Tanjouaré, à Dapon, il a continué dans la localité de Wargou, Gualibagou, dans ce projet également qui vise à apporter l'eau
à près de 45 000 personnes, aussi bien d'Apaon que Anaki-Est. Alors, IARC s'est retrouvé en face de certaines difficultés, des dysfonctionnements, et ne s'est pas privé pour le dire aux entreprises et aux bureaux de contrôle.
Oui, je crois que c'est généralement les problèmes de marché public. Vous savez, des gens se constituent et ils constituent généralement de très bons dossiers. Ils décrochent le marché et après, bon, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Et sur le terrain, ils vont à pas de tortue pour exécuter les marchés publics. Alors que là, nous sommes en train de parler d'un domaine assez vital qui est le domaine de l'eau potable et qu'il faut apporter de l'eau aux populations. Tu as parlé de la vie tout à l'heure dans la pensée du jour. L'eau, c'est d'abord la vie. Et donc, on pourra dire que la vie, c'est d'autres choses, mais l'eau, c'est d'abord la vie, comme on a l'habitude de le dire. Mais des sociétés là prennent assez trop de temps pour exécuter les travaux qui ne finissent jamais et dont le ministre a constaté qu'à l'allure où vont les travaux là-bas dans le nord du pays, les travaux censés finir pour la plupart en décembre, ces travaux ne pourront pas finir. Et donc, si ces travaux ne finissent pas en décembre, les populations de ces localités que tu viens de citer tout à l'heure n'auront pas d'eau. Et le ministre a dû hausser le ton et a le signifiant clairement au bureau de contrôle et aux entreprises qu'il leur donne un avertissement. S'ils ne hâtent pas le pas en exécutant les travaux, ils pourraient se voir être sanctionnés ou être exclus prochainement d'autres marchés publics, notamment en termes de d'eau potable. Et je crois qu'on en a besoin parce que le Premier ministre, en lançant dernièrement un projet à Lomé ici, le projet Pachmout, notamment toujours en lien avec l'eau, la question de l'eau, avait clairement dit que les retards dans l'exécution des travaux publics en matière d'eau ne pourront plus être tolérés. Et je suis d'accord parfaitement avec les autorités sur ce point parce que, comme je le dis, l'eau, c'est la vie. On ne peut pas permettre que des gens qui ont gagné le marché, qui ont peut-être eu une bonne partie de la cagnotte, se permettent de traîner le pas et ne pas exécuter les travaux pendant que nos frères, nos sœurs meurent de faim, meurent de soif.
Merci Didier. Jacques, il y a quelques jours, des images, des vidéos circulaient sur des localités de la préfecture de Tanjouaré et autres, où les mares ou bien les puits dont les populations puisaient l'eau inondaient la toile. Certaines personnes se permettaient même de railler. Il y a que c'est chez lui que de telles choses se passent. Alors on découvre qu'il y a déjà quelques années, quelques longs mois, que le gouvernement a lancé ces projets-là, ces projets qui accusent un retard que IARC vient de constater. Non seulement le retard, mais il dit relever des dysfonctionnements qui sont liés à la fouille même que les entreprises font, à la profondeur et à la qualité des tuyaux qu'on va poser. C'est ce que IARC vient constater. Voilà, comme le disait Didier tantôt, on accuse souvent l'État sur un nombre de défauts, mais on constate que c'est la lenteur de certaines entreprises qui expose l'État à certaines critiques.
Vous savez, vous avez bien fait de poser ce problème de l'eau. Personnellement, j'ai rencontré une autorité de ce pays dont je ne vais pas donner le nom.
Mais qui se reconnaît quand même.
Oui, personne ne peut se reconnaître. Et on a passé de long en large sur, effectivement, la problématique de l'eau et des pissures dans ce pays. Ça, on m'a fait voir des dossiers, mais si vous voyez ça, ça vous risquez de perdre votre latin. C'est-à-dire que mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse donner les marchés à des gens qui n'arrivent même pas à exécuter ces marchés, et qui, après tout, qui prennent la clé des champs, ils disparaissent. Il y en a où... Non, ça, c'est pas possible. Vous savez, on a toujours accusé le gouvernement, bon, que le gouvernement ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que les sociétés à qui on confie, effectivement, ce genre de marché aussi, créent des problèmes, effectivement, au gouvernement. Moi, j'ai dit à l'autorité, mais le problème, il faut rendre la paix d'ordre public, et vous publiez également.
Si, c'est ce qui se fait.
Voilà. Mais quand il y a un problème, on ne publie plus ça. Vous comprenez? J'ai dit à l'autorité, ce que vous allez faire, lorsque vous constatez par exemple ce genre de dysfonctionnement au niveau des marchés que vous attribuez aux gens, mais il faut publier la liste de ces sociétés et dire comment ces sociétés n'ont pas respecté. Comment vous pouvez imaginer ça? Quand on donne un marché à une société, de faire par exemple des forages. La société va, elle creuse seulement un trou, on met les tuyaux, on ne sait même pas de trouver la profondeur de l'eau, on branche, on s'en va, et après on revient, on inaugure, on dit bon, les populations, vous avez l'eau. Deux jours après, vous venez, dans le même forage, il n'y a pas l'eau.
Non,
c'est ça. Je vous dis, il faudrait, le président fera bien fait d'amener un militaire au niveau
de l'eau et de l'eau villageoise.
Je crois qu'il va essayer de corriger beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que nos compatriotes comprennent ceux à qui on attribue souvent ce genre de marché. Je l'ai souvent dit ça. Lorsque vous avez votre premier marché, n'allez pas investir au port. N'investissez pas dans le ciment. N'allez pas prendre une seconde femme. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, quand vous prenez l'argent, faites d'abord le travail.
On a l'impression que tu connais certaines personnes dans ce domaine.
Non, ne prenez pas l'argent. N'allez pas investir au port ni dans le ciment. Pour le moment, faites le travail. Vous verrez, le travail paie après. Mais lorsque les gens prennent de l'argent, ils pensent que bon, c'est la Java. D'autres quittent même le pays, ils vont y reviennent. D'autres, non, c'est pas comme ça que le travail va se faire.
Merci Jacques. Harry Miao, sauf que ces constats récurrents commencent à mettre à mal la politique du chef de l'État qui veut attribuer 20 à 25 marchés des marchés publics, 20 à 25% des marchés publics aux entreprises créées par les jeunes et les femmes. Et si on va dans tous les ministères, dans toutes les institutions, on est confronté au même problème. Alors ce problème-là, ça risque de mettre mal à mal sa politique à l'endroit des sociétés publiques.
D'ailleurs, est-ce que ces jeunes-là ont les marchés? C'est la première question. Est-ce que les 25%, tout ce que le chef de l'État a demandé, quelqu'un l'applique? Non. Les jeunes sont toujours au chômage. Les riches restent les mêmes. Et je voudrais plutôt dire que c'est d'ailleurs parce qu'on en donne trop aux gens qu'ils sont la
même personne.
Aux mêmes personnes. Vous n'allez pas me dire que les chantiers, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la construction, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes qui font les forages, c'est les mêmes qui font les routes, c'est les mêmes. Il n'y a aucun jeune qui a percé depuis, montrez-moi, depuis que le président a lancé ce chapitre-là. Quels sont les jeunes riches que vous avez connus? Quels sont les jeunes entrepreneurs qui ont émergé? Il n'y en a pas eu. C'est la même personne. Et ils sont gourmands tellement que même dans les petits trucs de 3 millions, 5 millions où les jeunes doivent prendre, ils sont encore là. Et c'est ça qui fait justement que le travail n'avance pas. Vous allez chercher à faire les statistiques, vous allez comprendre que c'est parce que les gens en ont trop de chantiers à la fois qui n'arrivent pas. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? On fait un répertoire en classe. Ça, là, c'est très lourd, c'est très important, on s'occupe de ça. Et les forages, là, c'est pour les petits-enfants. Mais ils vont négliger les forages. Alors que si vraiment, un débutant, ben, ce n'est pas tous les débutants qui sont voyous. C'est vrai ce que Jacques dit, mais chacun a son option. Il y a des gens qui sont sérieux dans la création de ce qu'ils font, qui veulent réussir. C'est à eux qu'on ne donne justement rien. Allez fouiller dans les ministères. C'est les mêmes personnes. C'est les amis qui appellent leurs cousins, leurs cousines, et c'est eux qui prennent. Quand on fait appel d'autres, quand je le dis, les gens vont dire que non, c'est l'orthodoxie, c'est du sérieux qu'on fait, c'est faux. C'est les mêmes personnes. Et quand c'est comme ça, ils en ont de trop, ils négligent certains chantiers au profit d'autres. Et c'est ce qui se fait, le ministre a bien fait de relever ça maintenant, qu'il trouve les moyens de traquer ces gens-là pour qu'on puisse donner la vie aux populations des profondeurs de notre pays. Il n'y avait pas que seulement au niveau de Tanjouaré, mais il y avait également, récemment j'ai vu dans le Vaud, j'ai vu à Kévé, où les gens, même dans le Tablibo, où il y a eu des images qui ont circulé, j'entendais parler Wati, je comprends que ces problèmes sont récurrents et présents dans tous les villages, présents dans toutes les préfectures, mais les gens ont les marchés, l'État a fait sa part. Mais les gens ne veulent pas exécuter, ils ne veulent pas livrer pour donner la vie aux populations.
Jacques, la solution est claire. Jacques exhortait tantôt le chef de l'État à secouer tous les cocotiers, non seulement les militaires, mais tous les cocotiers. Voilà, Jacques qui commence à secouer les siens pour ce qui est de l'attribution des marchés d'adduction. Attention, si vous ne le savez pas, c'est un général qui vient d'arriver dans l'eau et qui ne veut pas se noyer. Donc les entreprises et les bureaux de titre savent à quoi s'en tenir.
Moi, je pense que ce que relève Harry Miao est assez fondamental. Et là, pour l'avancement même de la République, on en a besoin. Il faut un jour sciemment changer les sociétés qui prennent à tout bout de champ tous les marchés. Il faut les changer, essayer véritablement les sociétés de jeunes. Si l'État veut, l'État pourrait y arriver parce que l'État a les moyens de faire tous les renseignements possibles sur véritablement les profils des jeunes et même des entreprises devant lesquelles on met des jeunes juste en faction et après juste des grands mêmes sont encore derrière pour reprendre les choses. Je pense qu'il faut des fois être orgueilleux. Un État des fois doit être orgueilleux pour avancer. Il faut de l'orgueil de l'État pour attribuer justement des marchés à des vrais jeunes et à des sociétés qui n'ont toujours pas encore rien eu. Et au lieu de continuer à donner aux mêmes personnes qui battent les travaux et qui tirent l'avancement de l'État vers le bas, il faut véritablement que l'État décide un jour. Je pense que les ministres peuvent y arriver s'ils veulent véritablement aider le chef de l'État.
Merci. Ces projets que YARC inspecte un peu partout font certainement partie du portefeuille de la Banque mondiale au Togo. L'actualité ces derniers jours, c'est justement la revue du portefeuille des projets aussi bien de la Banque mondiale que de la Banque africaine de développement au Togo pour l'année fiscale. Il s'agit de faire le point d'exécution des projets, de capitaliser les résultats positifs, de relever également les contraintes et d'identifier les approches de solutions. L'objectif, c'est accélérer la consommation des ressources et assumer l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des projets qu'aussi bien la BAD que la Banque, que la BM, la Banque mondiale, finance sur Togo. On ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais c'est parti pour les jours à venir, parce que vous êtes déjà impatients. Nous nous plions, nous allons à la pause, le temps que Michel adresse le clin d'œil de Canal FM à nos partenaires, puis nous rebondissons avec vous. Vous composez le 22 21 33 74 ou le 91 36 375 et vous co-animez avec nous avec des questions, vos commentaires sur l'un ou l'autre sujet discuté aujourd'hui.
93.5 Canal FM. Eh bien, nous avons été privés de courant pendant un moment, mais Dieu merci, la lumière est revenue. Et nous pouvons à présent terminer avec la co-animation. Les auditeurs au bout de la ligne, bonjour. Oui. Ah, c'est Didier ça.
C'est ça. Et puis, je voulais venir sur le général Yac. Ce qu'il est en train de dire là, c'est du blablabla. C'est la com' il est en train de faire. Puisque le marché public même est réglementé par des lois, au lieu de venir nous parler à la télévision et à la radio, il sait ce qu'on doit faire. Dans le marché public, les gens défaillants, il faut les punir, il faut les traduire devant la justice et puis retirer les marchés. Et puis, la réception des marchés qui les fait, c'est les fonctionnaires de l'État. C'est eux les responsables. Quand ils réceptionnent des marchés, les ingénieurs conseillent. Il faut les traduire devant la justice et puis tout ça va finir. Je vous remercie, M. Sass.
Je vous en prie, l'ami Didier. Merci pour la co-animation. Didier qui passe le témoin à un suivant. Ok, donc il y a plutôt Didier pour qui la première personne a interpellé pour le renouvellement des institutions le chef de l'État qui a les armes régaliennes de la Constitution. Il a parlé également du général Yark avec ses visites et ses avertissements à l'endroit des populations, des entreprises, pardon. Hein, et puis, il est revenu sur la procédure de passation même des marchés qu'il faut revoir. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Nyamava.
Monsieur Nyamava, oui, allez-y.
Oui, je suis somnolé, je crois écouter.
bon réveil.
Allô?
Oui.
Je crois écouter très bien et puis je me suis réveillé de mon sommeil. Là.
Ah.
on a laissé les prisonniers là ou bien comment?
Non, on a dit juste qu'il y a des gens qui sont prévenus, arrêtés depuis des années, qui ne sont pas encore jugés. On a cité l'affaire Trédi, on a parlé également de Tiger Revolution et puis toutes les personnes arrêtées depuis des mois, depuis des années, mais qui ne sont pas encore jugées.
Sur notre île, il n'a pas évolué.
Non, vite, vous pouvez replonger dans votre sieste, M. Nyamavo.
Oui, ça va régler la peur pour Fort. Hein. Sinon, il peut changer les généraux autour de lui. Nous, on va faire un coup d'état électoral, on va faire les points focaux. Je vais solliciter Nyakade à rejoindre l'opposition, si rien n'est fait pour sauver le peuple dans cette condition-là, pour qu'il y ait une bonne transparence, qu'on convoie. Les procès-verbaux réellement.
Merci. Attendez, lorsque le calendrier des prochaines élections sera publié, vous pourrez vous mettre dans la balance en vous conformant aux tests qui réglementent les élections de notre pays. Le troisième.
Allô?
Oui.
Le chef.
Oui.
Moi, je n'ai pas dit de revoir la procédure de marché public. Hein, parce que c'est un test qui réglemente le marché public. Quand les gens sont défaits, le général, il accepte comment les traquer.
Ah, okay,
les fonctionnaires d'État, c'est-à-dire la réception des marchés publics, c'est les fonctionnaires de ces ministères, les ingénieurs qui les réceptionnent. Ils n'ont qu'à les traduire en justice au lieu de venir nous faire comme à la radio.
Ok. Merci pour le retour et la précision de votre pensée. Autre auditeur, bonjour.
Monsieur.
Allô?
Ah, bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Akiza.
Monsieur Akiza?
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Quand vous parlez de la.
La communication se coupe par moment. Oui, monsieur Akiza?
Monsieur, ça.
Monsieur Akiza?
Allô, monsieur ça.
Oui, la communication se coupe là, j'arrive pas bien à vous suivre. Là, toutes nos excuses hein, auprès de notre ami monsieur Akiza. Il y a un autre auditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Bonjour monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
Combattez d'Avenou. Oui.
Eh bien,
j'espère que vous allez bien.
Nous vous écoutons.
Je salue le plateau.
Oui, nous vous saluons aussi.
Je salue monsieur Dakouti au passage.
Mm-hmm. Oui.
Oui, c'est bien qu'on donne la liberté à nos frères et sœurs qui étaient détenus. Mais il y a encore des prisonniers potentiels qui, en principe, ne devraient pas être libres de leur mouvement. Mais s'ils sont libres, ils nous naquent même.
Mm-hmm.
Des gens ont détourné des milliards, des millions. On les connaît. Le chef de camp les connaît. Le procureur général, le procureur de la République, tout, on les connaît. Mais ils sont libres d'un mouvement, ils se moquent des gens. C'est pas bien. C'est eux qui devraient prendre la place de ceux-là qui ont quitté le jeûne. Voilà. Maintenant, par rapport au ministre Yark.
Oui.
Le ministre Yark, quand des gens ne comprennent pas sa politique, c'est qu'ils ne connaissent pas ce monsieur. Ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui aime la population. Il est très généreux et il ne va pas leur faire boire des eaux souillées.
Mm-hmm.
C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que tout ce que l'on doit mettre dans la bouche doit être contrôlé.
Oui.
Parce que la maladie, d'abord, c'est ce que nous mangeons qui construit la maladie.
Mm-hmm,
mm-hmm. Donc, je salue le plateau. Bonne semaine à chacun.
Merci à vous, l'ami combatté. Nous allons prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonsoir, Canal FM.
Bonsoir.
Oui, c'est monsieur.
Oui, c'est Arès.
Pardon?
Arès.
J'entends mal.
C'est Arès, A-R-E-D-S-E.
Arès, monsieur Arès.
Oui, okay. Vous avez parlé de marché public.
Oui.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour dire que on ne peut pas faire la promotion des jeunes entreprises lorsqu'on se met à privatiser des banques. Parce qu'il faut qu'on ait des banques étatiques pour aider les jeunes entreprises. Pour moi, je pense.
Mm-hmm. Merci.
Bon après-midi.
Des banques qui soutiennent les jeunes, qui financent leurs projets d'activité. Voilà ce que nous rappelle M. Arès. Merci pour ceux qui ont pu entrer en ligne avec les difficultés qu'on a connues. Mais merci quand même à la CET qui nous a permis de terminer cette émission. Tout de table comme conclusion. Harry Miaou?
Non, bon, c'est pour dire à mon ami Didier qui m'a interpellé que c'est vrai que c'est le chef de l'État qui est le premier de nous tous, mais c'est aussi vrai que le chef de l'État a appelé tous les Togolais, à quelque niveau qu'ils soient, à prendre leurs responsabilités et de jouer leur partition. C'est à eux que je m'adresse. Quand j'ai dit les gens, je veux dire que des gens ont été nommés à des postes, des gens ont des rôles à jouer, et ces gens-là ne jouent pas forcément ces rôles, alors que le premier de nous tous ne peut pas être partout à la fois. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'entre-temps, il a dit à tous les Togolais de jouer, de mettre la machine de l'État en branle pour que tout puisse se régler à tout niveau et à chaque instant.
Là, nous sommes d'accord, mais déjà Didier Assogba parlait de calendrier républicain qui s'impose à nous tous, en commençant par le premier de nous tous. C'est à ce niveau-là que, quand les actes ne sont pas pris pour renouveler les institutions, que Didier, l'auditeur, regarde plutôt du côté du chef de l'État.
Il y a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, dire c'est pas le président qui vient élire les gens, mais quelqu'un doit passer la présentation et dire que voilà le moment sonné pour faire ceci. C'est ce que je voulais dire.
Merci. Voilà. Didier Assogba?
Non, moi je pense que le débat que nous avons mené a été un débat assez riche et les auditeurs ont semblé nous comprendre. Et ça a été l'intervention de Didier, ça a été un appui à ce que nous disons déjà. Et donc je pense fondamentalement qu'il revient s'il indexe le chef de l'État, c'est sa façon de voir. Et tout ce que nous avons dit ici, je suis d'accord parfaitement avec lui, que si quelqu'un doit pouvoir prendre une décision dans le pays, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État veut, d'ici la fin de la journée, quelque chose peut commencer quelque part. Et jusqu'à la fin de la semaine, on pourra renouveler les institutions, puisque les députés sont déjà en service, en plein service à l'Assemblée nationale. Ils devraient être en train de regarder un peu en attendant que le budget 2024 arrive sur la table pour commencer les travaux en commission. Donc ils sont là encore. Donc je pense que beaucoup de choses peuvent se faire avant la fin de leur mandat. Donc le chef de l'État peut décider à tout moment. Nous l'y invitons pour cela. Et si c'est pas lui, et si c'est ses collaborateurs qui doivent le lui rappeler qu'il y a beaucoup d'anomalies au niveau de nos institutions, pourquoi pas?
Merci. Jacques Laya?
Non, je crois que j'ai fait un constat dans le pays. C'est comme si l'argent est bloqué quelque part. Ça ne tourne plus comme avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que les économistes puissent nous éclairer un peu par rapport à ce qui se passe. Parce que vous voyez aujourd'hui, la plupart ne rient plus à vendre. Et puis, ceux qui faisaient les affaires de gauche à droite, peut-être on me dira que peut-être c'est la guerre en Israël, la guerre peut-être entre
l'Ukraine
et la Russie. Mais il faut reconnaître que nous avons quand même nos économies. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'État puisse aider ces petites et moyennes entreprises à pouvoir respirer un peu. Et autre aspect, demander aux parents. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. J'ai appris, je n'ai pas encore vérifié si c'est vrai, que c'est venu également ici au Togo. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est une pratique. Et si ça venait ici, vous auriez invité le ministre de la Sécurité et l'ensemble des corps habillés à mener ces enquêtes pour démasquer ces genres de pratiques.
Il s'agit de quoi, Jacques?
Il s'agit de la tontine sexuelle.
Pardon?
La tontine sexuelle.
Ah
donc,
bon?
Oui, ça se passe. Donc il faudrait que les parents, le ministre de la Sécurité, puissent veiller pour que si c'est déjà sur notre sol, qu'on puisse effectivement démasquer ces gens-là et les mettre hors d'état de nuire.
Ça, je donne une alerte rapidement également. Oui. Ça va permettre, Jacques a dit que l'argent est bloqué quelque part. Moi, je m'inquiète pour la nourriture. Il y a un réseau, il y a des réseaux qui se permettent encore de faire sortir du territoire assez de nourriture, donc le céréal, les tubercules et un certain nombre de produits ici, ce qui fait que sur le marché maintenant, il y a une rareté de ces produits-là, mais qui continuent de devenir de plus en plus chers. Donc je demande aux autorités de mener les enquêtes et de démanteler ces réseaux-là et les empêcher de sortir du territoire ces denrées-là de première nécessité pour les Togolais et pour affamer les Togolais à la fin. Donc c'est une alerte que je donne et je pense qu'il faut travailler là-dessus.
Merci. Eh bien, l'argent, Jacques en a parlé. L'argent, c'est l'oxygène de l'économie. Et nous sommes justement à une période où l'argent doit circuler. Il y a le marché international de l'artisanat togolais, le Miato, qui vient de s'ouvrir. Mais il faut de l'argent pour y aller. Il y a la foire internationale de Lomé qui va s'ouvrir dans quelques semaines. Il faudra de l'argent pour aller. Et la fin de l'année, les fêtes aussi bien religieuses que païennes, que profanes, on a besoin d'argent pour visiter, pour aller faire les achats et faire tourner pour que la croissance économique soit au rendez-vous. Eh bien, ceux et celles qui ont la mission de faire circuler l'argent, nous vous interpellons gentiment et que la fin de l'année soit économiquement heureuse pour nous tous. Mais rappelons-nous, le 30 octobre, c'est la journée mondiale de la vie. Nous qui sommes en vie, continuons à la célébrer. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.